Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman, vous allez
bonjour
bien?
Bonjour Valérie, bien et vous?
Bon,
j'ai
très
vu qu'hier,
bien.
J'ai vu qu'hier vous avez préparé vos vacances, vous étiez très en colère sur les réseaux sociaux.
Ah oui, mais j'en ferai un coup de gueule tout à l'heure.
C'est vrai, moi, je trouve ça m'a fait rire.
Oui, oui, mais j'en ferai un coup de gueule sur ces numéros surtaxés qui sont insensés. Je le ferai tout à l'heure à 11h. Voilà, teasing, j'étais très en colère hier et je le suis encore.
Je me suis alors, bien préparé ces vacances.
Non, oui, c'est compliqué. Mais je ne suis peut-être pas la seule, justement, ceci expliquant cela. On sera tout à l'heure avec Maïké Dara, ça vous dit peut-être rien. Maïk, pardon, je ne sais pas pourquoi je veux mettre Maïké. Maïk Dara, alors c'est la voix française de Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, vous la verrez ce soir sur M6 dans Sister Act 1 et Sister Act 2. Grande soirée à ne pas manquer sur M6 et elle double énormément d'acteurs américains, dont Courteney Cox, Diana Ross. Enfin, elle va nous raconter un petit peu ce que c'est que ce métier de doublage. Ce sera dans un instant. À 10h30, on va parler de toutes ces plaintes contre le Premier ministre, contre le président de la République. On aura l'avocat Fabrice de Vizio avec nous. Et puis à 11h moins le quart, un avocat qui, lui, s'occupe des plaintes des commerçants contre les assureurs dont on a peu entendu parler, qui se sont peu manifestés, mais qui visiblement se font tirer l'oreille pour indemniser les commerçants. Allez, on démarre tout de suite avec les audiences. Les audiences, c'est Camping, évidemment, Camping 2 qui est arrivé en tête, 5 263 000 téléspectateurs. Alors c'est marrant parce que c'est 1 million de plus que le Camping 1 de la semaine dernière.
Vous préférez le 1, c'est ça?
Oui, oui, mais c'est marrant qu'il y ait une différence de 1 million. Non, non, j'aime bien, moi, ça m'amuse beaucoup. Deuxième position, c'est France 2 avec la série américaine Major Crime. C'est le même score que la semaine dernière, un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. Et puis Secret d'Histoire qui était consacré au général de Gaulle, 2 656 000 téléspectateurs. C'est plutôt un très, très bon score. Les Évadés, 2 347 000 téléspectateurs sur M6. Et c'est ce que vous avez regardé Régine, c'est ça?
Absolument, bonjour.
Bonjour Régine.
Oui, oui, c'est vrai que je me suis singularisée en ne regardant pas Secret d'Histoire à cette époque, mais pour une bonne raison, c'est que mon mari était un grand admirateur du général de Gaulle, et quand Secret d'Histoire était sorti, je lui en avais offert un exemplaire qui était son livre de chevet. Mais dans le domaine, et c'est vrai qu'actuellement, 80 ans, on en verra d'autres. Mais contre, vous m'avez aidé à choisir Les Évadés parce que hier vous avez fait une allusion à ce film, comme vous faites tous les jours pour les programmes du soir. Je ne l'avais jamais vu. Et là, en même temps, dans le domaine de la propos, c'est génial. C'est un film extraordinaire. On ne revient pas sur la qualité de Morgan Freeman et d'Andy de Tom Robbins. Mais par contre, c'est quand même plein d'espoir. C'est tout à fait dans l'actualité actuellement, et j'ai vraiment adoré. C'est un film extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'il est un peu long, et quelquefois...
Vous êtes endormi?
Non, justement. Justement pas. Non, non. C'est un film fabuleux et qui est vraiment dans l'actualité.
Merci Régine de cet enthousiasme et puis on remercie Rémi de nous donner des bons conseils tous les matins à 9h30 dans la matinale de Sud Radio. Donc c'est effectivement un très bon film. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors Valérie, Gilles, qu'avez-vous regardé? Qu'avez-vous retenu de cette journée d'hier?
J'ai retenu l'actualité de la nuit, évidemment, les violences tchétchènes à Dijon, dans le quartier du Grésil, des exactions condamnées déjà hier par François Rebsamen. Le maire de Dijon était invité et était très en colère sur BFM.
J'ai été sidéré par ce qui s'est passé ces trois jours, parce que les faits qui se sont déroulés pendant trois jours sont totalement inacceptables. Il s'agit bien du tabassage dans le cadre d'un règlement de compte d'un jeune tchétchène. Et vu que maintenant la règle est celle-là en France, la justice passe trop tard, la police n'a pas les moyens de son action. Et donc la communauté tchétchène est venue faire respecter elle-même son droit.
Une autre info de la nuit, toujours Valérie, la Chine qui s'inquiète de nouveau, Pékin en particulier, avec une augmentation de nouveaux cas dans la capitale du Covid-19. France 24 était sur place.
Le plus grand marché alimentaire d'Asie est le nouveau foyer de Covid-19 de la capitale. Et les autorités recherchent activement tous ceux qui ont fréquenté le marché, plus de 200 000 personnes depuis le 30 mai. Résultat, des quartiers entiers sont à nouveau confinés. Les restrictions et contrôles de température sont de retour.
C'est à nouveau difficile d'accéder aux résidences. Les mesures s'étaient assouplies. Je pouvais livrer mes paquets sans contrôle. Mais maintenant, j'ai besoin d'un laissez-passer pour rentrer.
Pas très rassurant tout ça, hein, madame.
Non.
Et puis hier dans C'est à vous, l'avocat Éric Dupond-Moretti s'est énervé du phénomène où tout le monde rend la justice à la télé, où tout le monde est le procureur, tout le monde joue au procureur dans la rue.
Moi je voudrais vous dire que la justice elle ne se rend. Déjà on a du mal à la rendre au tribunal. Alors c'est pas pour la rendre dans la rue, ni sur les plateaux de télé. Moi je suis infiniment circonspect avec tout ça. Il y a des tas de gens qui défilent qui ne connaissent rien du dossier Traoré. Peut-être que c'est une bavure, j'en sais rien, peut-être. Mais qu'on laisse faire les choses. Ce qui me choque, par exemple, alors pour le coup, ça me choque, c'est qu'il faille attendre 4 ans avant que les parties civiles aient une réponse. Et là, d'un coup, on s'affole parce que l'opinion publique se lève.
Autre colère, celle de Valérie Benaïm, dans C'est que du kiff sur C8. Elle s'est agacée de l'omniprésence du restaurateur Philippe Etchebest.
Il est jamais content, c'est-à-dire que effectivement,
non mais il a peur pour les restaurateurs, on peut comprendre. Oui.
Le secteur de la restauration, de l'hôtellerie va extrêmement mal et effectivement on s'attend à ce qu'il y ait des fermetures en septembre malheureusement mais on peut pas demander au gouvernement et au chef de l'État de résoudre des problèmes sanitaires en l'occurrence là ce pourquoi il râle c'est parce que on est encore obligé de mettre dans les restaurants moitié moins de monde mais voilà. C'est pas de la faute du gouvernement si on est obligé de mettre moitié moins de monde
d'accord, ça le gouvernement avec...
Puis j'en profite pour dire que de mercredi c'est la finale de Top Chef et nous on aura le gagnant jeudi. On verra qui est le gagnant. Et pour continuer donc ce zapping, vous savez que depuis hier, la campagne officielle pour les élections municipales a démarré. Je vous emmène à Marseille, Valérie, où Martine Vassal, qui est candidate LR, est accusée d'avoir acheté des bulletins de vote. Elle s'en est défendue hier.
Mais d'abord que je ne suis pas une fraudeuse, je l'ai jamais été et c'est pas maintenant que je veux commencer à l'être. Donc il y a une enquête, oui, qui a été ouverte. Cette enquête, moi j'ai ouvert les portes et les fenêtres de l'ensemble des permanences que j'ai. Et ce que je vous souhaite, c'est que les enquêteurs regardent tout et partout, même chez les concurrents. Parce que moi je fais preuve de transparence et j'espère que ça va être pareil ailleurs aussi.
Alors vous savez... C'est aller voir ailleurs, c'est ça. Il n'y a pas que moi qui fraude, quoi, en gros.
Exactement. Vous savez que à prendre ou à laisser sur C8 donc cartonne avec Cyril Hanouna, mais avant le jeu avait fait évidemment les grandes heures de TF1. Et puis il y avait un anonyme qui avait gagné à prendre ou à laisser, qui est devenu quelqu'un de célèbre. C'est Jean-Philippe Janssen. Alors je ne sais pas Valérie si vous le saviez, mais il avait gagné 150 000 euros à l'époque, Jean-Philippe Janssen. Et il a raconté cette histoire devant une Christine Bravo épatée dans Les Enfants de la télé. J'avais pas pu vous passer le son hier.
Il a gagné 150 000 euros.
C'est pas vrai. Mais pourquoi t'en as pas profité pour refaire des trucs?
Regarde, tu vois pas la différence. Vous avez fait quoi, sérieusement?
Non, c'était une époque de ma vie où j'avais beaucoup de casseroles. J'avais eu des amours difficiles et douloureuses et qui m'avaient coûté beaucoup financièrement. Pourquoi? Ça m'a permis de rattraper
une petite financière. Tu payais?
Ben, j'avais eu un petit copain pour qui j'avais... il avait ouvert des boutiques à mon nom. Voilà, c'est ça. Et il est parti avec la caisse et moi, je me suis retrouvé à payer ses dettes. Donc, ça m'a permis de retrouver une vie financière normale.
Christine Bravo, sans filtre, hein, vous avez vu pourquoi
toujours,
tu payais, toujours. Pour finir, c'était... Ça va vous plaire comme son, Valérie. Pour finir, c'était dans Quotidien hier qui s'est moqué des chansons, de la chanson de l'année sur TF1. Vous allez voir, c'est très drôle et c'est bien vu.
2020, apparemment, on se fait plus trop chier hein, avec les paroles.
Ça fait bim, bam, boum, ça fait pss et ça fait broum.
Yeah, 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 oh, ah.
Et nanana, nanana.
Bim, bam, boum.
Bravo, bravo pour ces paroles.
Voilà, bravo pour ce texte.
Vous n'avez pas retrouvé le son sur LCI, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux de Gérard Miller qui demande à ce qu'il y ait une rue Assia Traoré.
Si, je l'ai... j'aurais pu le sélectionner.
Voilà,
Gérard Miller qui
a dit ça hier sur LCI. On est en ligne avec Maïk Dara, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la voix à la fois de Whoopi Goldberg, d'Angela Bassett, de Madonna, de Viola Davis, de Courtney Cox, de Diana Ross. Toutes ces stars américaines n'ont qu'une voix française, c'est la vôtre. Et ce soir, on pourra vous entendre avec Whoopi Goldberg, puisque M6 va diffuser Sister Act 1 et Sister Act 2. Dites-nous quelques mots, qu'on voit si on est bien avec Whoopi Goldberg.
Alors là, c'est le grand mystère. oui. Non, enfin, vous n'êtes pas avec Whoopi Goldberg. Disons que vous êtes avec la French Whoopi.
French Whoopi. On en écoute un petit extrait, Gilles.
Oui, on écoute un extrait de la bande-annonce du film Sister Act qui sera à 21h05 sur M6.
Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire sans me casser les ongles et sans gêner personne.
Vous ferez partie de la chorale.
La chorale ? Ça va être l'enfer. On va mettre du rock dans ce bazar.
Et si j'oublie les paroles ?
T'iras en enfer.
On pourrait faire un clip, non ?
Vous êtes une pionnière.
Elle est une bonne sœur, non.
Vous avez corrompu la chorale tout entière. Vous savez, j'ai chanté à Las Vegas. Là-bas, ce qui compte, c'est de faire le plein.
Ce que j'aime le plus, c'est chanter.
C'est mieux qu'un esquimau.
C'est même mieux que le printemps.
S'envoyant en l'air.
Voilà.
Non. Voilà, c'est...
voilà. Vous en avez quel
souvenir de ce doublage,
Comment, pardon ?
Vous en avez quel souvenir ?
C'est un des rôles les plus savoureux que j'ai eu à interpréter en français.
Oui. Oui. Voilà. On interprète quand on double, justement, parce que c'est un métier qu'on connaît assez peu et qui est évidemment essentiel à la traduction d'un film. Enfin, quand on regarde un film, il est évidemment extrêmement important que la voix colle au personnage. Comment ça se passe, un doublage ?
C'est effectivement, faut le mot interprétation est même faible. Je parlerai même d'incarnation. Voilà. Il faut vraiment instantanément, parce qu'on n'a pas le temps de travailler un rôle et tout, mais instantanément, faut se laisser imprégner de la comédienne, de son rôle, de ce que elle a donné dans le rôle, et puis essayer d'être le plus proche possible, moins trahir le moins possible, si on peut parler de trahison. Voilà, le moins possible pour que la version française devienne une version originale, en fait.
Alors,
d'un autre côté, le rire qu'on entend ou les expressions qu'on entend, ce sont les vôtres. C'est un peu comme les voix de Columbo ou les voix de Starkey Hodge. Vous avez donné une personnalité à ce personnage, à Whoopi Goldberg.
Ben oui, c'est elle qui m'a inspiré, quoi. Mais après, c'est vrai que oui, elle rit pas tout à fait comme moi, elle parle pas tout à fait comme moi. Mais voilà, c'est pour ça que je parle d'incarnation, quoi. Je me mets vraiment à sa place et je donne tout ce que je peux donner pour que le personnage est-ce qu'il mérite, hein, parce que c'est un beau personnage aussi, il faut dire ce qu'il est.
Ouais. Et alors la question qu'on doit vous poser à chaque fois, est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous rencontrez les acteurs que vous doublez, en particulier Whoopi Goldberg ?
Non, moi je l'ai rencontré, mais c'est rare qu'on rencontre, j'ai rencontré Whoopi et Madonna. Mais voilà, c'est pas elles qui ont pris rendez-vous, hein, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
C'est plutôt moi qui ai pris rendez-vous, si je puis dire.
Mais ça les intéresse ou pas de savoir qui les double ou elles s'en fichent ?
Moyennement, parce qu'elles se rendent pas, ils se rendent pas compte, comme le doublage n'existe pas aux États-Unis. Les films sont sous-titrés mais ne sont pas doublés. Ils se rendent pas trop compte de l'impact qu'une mauvaise version étrangère peut avoir sur elle, carrément, enfin sur eux, quoi. Mais parce que sinon, voilà, il y a sa doublure aussi espagnole, italienne, allemande.
Ouais.
Voilà, mais la française, j'avoue que je me laisse assez prendre au jeu aussi. Ouais. Et je sais pas comment sont les autres, mais c'est vrai que je suis très contente d'avoir réussi à choper quelque chose qui voilà qui est plutôt positif pour elle. Ouais.
Moi, je voulais savoir si ça vous empêche d'avoir d'autres rôles, parce qu'on identifie énormément votre voix. Est-ce que ça vous empêche d'être dans des fictions, dans des séries, ou d'obtenir d'autres doublages parce que votre voix, elle est très marquée, ou vous arrivez à modifier votre voix? Parce que, par exemple, vous faites Monica dans Friends, c'est pas vraiment la même voix que Whoopi Goldberg, non? Vous la modifiez?
Ah, mais c'est pas que c'est pas la même voix, c'est que c'est pas le... c'est pas la même âme. C'est pas le même, c'est pas du tout le même. Courtney dans Friends, elle est très féminine, elle est très maniaque, elle est très voilà, elle est très très différente. Et du coup, je ne change pas ma voix, non, elle se transforme elle-même parce que je me dis, bon, allez Maïk, t'es très féminine, t'es très maniaque, t'es très féminine, quoi. Et ma voix devient très féminine.
Ouais. Comment vous êtes arrivée au doublage?
C'est une amie. Enfin, moi, j'étais comédienne avant, même danseuse. J'ai été Kira à l'opéra, tout ça et tout. Donc, j'ai fait pas mal de scènes quand même avant de faire le choix d'être comédienne. Mais donc, j'ai tourné pas mal, j'ai joué au théâtre. Et puis, j'ai une amie comédienne qui m'a emmenée sur un plateau de doublage. Pour voir comme ça, et puis j'ai fait un petit essai, et puis ça a tout de suite très bien marché, et on a apprécié tout de suite, comme c'est un petit milieu quand même, c'est allé assez vite, et voilà.
Et c'est venu après un rôle en entraînant un autre. Vous doublez Whoopi Goldberg, vous doublez Courteney Cox. Est-ce qu'il y a des voix noires et blanches? Enfin, je ne sais pas très bien comment poser la question. Est-ce qu'il y a une tonalité différente? Est-ce qu'il y a des noirs doivent doubler des noirs et les blancs des blancs?
Vous voulez répondre en si peu de temps à cette
question? Oui, c'est un vaste sujet, mais c'est intéressant.
Oui, c'est très intéressant. Moi, j'ai un peu les fesses pour parler poliment entre deux chaises, puisque je suis métisse africaine. Donc, maman était blanche, parisienne, Arletty et tout ce qu'on veut. Et papa venait du Togo. Il était noir, il était africain. Même s'il avait vécu très très longtemps en France, mais ce qui fait que j'ai un peu pas les deux cultures, puisque je suis né ici. Mais en tout cas, j'ai les deux. Je vais encore parler d'âme, hein, excusez-moi, mais c'est important pour moi. J'ai un peu l'âme noire et l'âme blanche, quoi. Et ce qui est intéressant quand un comédien ou une comédienne noire double un comédien noir ou une comédienne noire, c'est que les noirs américains, ils trimballent des trucs. Ils trimballent des trucs, même si le rôle n'est pas porté sur le racisme, sur la ségrégation et tout. Mm-hmm. On trimballe des trucs quand on fait partie d'une minorité. Voilà. En plus, c'est le sujet en ce moment là-bas, qui est le sujet maintenant ici aussi. On trimballe des trucs qu'on ne peut pas inventer. Bon. Ouais. Moi, je trouve que c'est un plus sur un rôle quand on double une comédienne noire, par exemple dans Murder, Viola Davis. Elle trimballe des trucs incroyables et c'est parce qu'elle est noire qu'elle trimballe ces choses-là. Donc moi,
une comédienne blanche pourrait pas le faire parce qu'elle n'a pas les racines ou le vécu d'un noir entre guillemets. Vous pensez que c'est pas possible?
Si, elle pourrait le faire, parce que si c'est une très bonne comédienne, elle va pouvoir le faire. Mais je ne démords pas du fait que dans certains sujets, c'est important parce que on a quelque chose en nous qui est une réalité, quoi. Et que l'on vit au quotidien.
Et donc, ça serait bizarre, une blanche qui double Whoopi Goldberg.
Ben,
non, c'est possible?
Si, c'est possible, parce que dans Jumping Jack Flash, et je fais un hommage à elle, c'est Jacqueline Cohen qui l'a doublée, tout le monde croit que c'est moi d'ailleurs. Et elle colle super bien. Mais bon, je vais pas faire, je ne voudrais pas tout mélanger en peu de temps. Elle s'appelle Jacqueline Cohen, donc elle est juive, et je pense que elle a aussi des choses qu'elle trimballe, qui sont pas identiques à ceux des noirs, mais au niveau d'une certaine souffrance, oui. Donc ouais. peut-être qu'elle a cette espèce de sensibilité aussi qui fait que cet humour, parce que faut, voilà, il y a beaucoup de dérision, beaucoup d'humour dans les personnages que font les trois quarts qu'on fait Whoopi. Ouais. Voilà. Et quand je fais Courteney Cox, eh ben, je suis une petite pontinoise, hein. Moi, je suis née à Pantin, dans le 9-3. Non, mais c'est vrai. J'avais une maman qui était Arletty, je vous promets. Elle parlait comme Arletty. C'était une Parisienne. Elle était née dans le 19e. Donc, j'ai des, voilà, j'ai des points de référence qui font que. Ouais, mais je ne dis pas. Voilà, mais je ne dis pas que quelqu'un, qu'un comédien blanc peut pas doubler un noir, ni l'inverse. Ouais.
Est-ce que vous regardez les films sous-titrés ou les films doublés quand vous regardez un film?
Ah non, en règle générale, je regarde en français.
En français, ah ouais, d'accord.
Oui, c'est parce que je suis pas bilingue. Non, je, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas parce qu'on fait du doublage qu'on comprend très bien l'anglais. Moi, je comprends à force des petites choses et tout. Oui. Mais j'aime tellement.
Non, mais vous préférez ça aux sous-titres. Vous préférez voir l'interprétation justement qui a été faite.
Oui, sauf si c'est une mauvaise version, mais généralement les
doublages sont plutôt bons.
Oui. Et je me laisse prendre d'ailleurs moi-même. Et voilà. Et je préfère être dans le regard de l'acteur, de en fait, vraiment dans l'histoire plutôt que de lire les sous-titres, de rater tout ce qui se passe à l'image. Puis les sous-titres ne disent pas tout.
Juste parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais vous pouvez aller voir Mike Johnson, Mike Dara a un site internet et puis également sur YouTube. Juste rapidement, écoutez parce que Mike chante aussi. C'est une grande chanteuse. Écoutez quand elle chante sur le doublage.
On m'appelle Monica, moi blanche comme du crépi. Si tu me crois pas, tant pis. Fermez les yeux, je suis certaine qu'ainsi vous m'imaginez mieux sous les traits de Whoopi. Je suis la femme au mille visages.
Génial, super.
C'est beau, hein.
Vous avez, en plus, avec une voix totalement différente de celle qu'on a entendue ce matin. Bon, on va sur votre site, Mike Dara, si on veut vous entendre, vous écouter, chanter, vous voir.
Et c'est Julie Laforêt qui m'écrit et qui me compose les trois quarts de mes chansons ou que je co-écris avec elle, voilà.
Très jolie, en tout cas, vraiment une superbe voix de chanteuse. Merci, Mike, d'avoir été avec nous.
Mais
et ce soir, Whoopi Goldberg avec vous pour la voix, comme on dit, au spectacle. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour parler de choses un petit peu plus sérieuses, bien que le doublage soit très sérieux. Mais on va parler de ces plaintes, de ces centaines de plaintes contre les politiques. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, les conséquences du Covid, ce sont des plaintes multiples qui sont déposées à la Cour de justice de la République, mais également contre les assureurs. On en parlera à 11h moins le quart, des entrepreneurs qui se fédèrent contre les assureurs. Appelez-nous pour témoigner si c'est votre cas. Et puis des médecins et des particuliers qui également ont décidé de saisir la Cour de justice. Maître Fabrice Divisio, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, représentant du collectif soignant C19. Vous avez vous-même déposé plusieurs plaintes auprès de la Cour de justice de la République. C'est relativement inédit, ce nombre de plaintes.
Je pense même que c'est une première dans l'histoire, en fait. Il faut se souvenir que la Cour de justice de la République, elle est née au moment de l'affaire du sein contaminé. Et nous sommes ici dans une situation qui est totalement inédite et qui dépasse de très très loin l'affaire du sein contaminé.
Oui, alors vous avez été l'un des premiers, si je dis pas de bêtises.
On a été le premier, en fait.
Vous avez été le premier, on vous a vu sur beaucoup d'écrans, effectivement, très en colère. Vous avez été, donc, votre cabinet, le premier à vous occuper de ces plaintes. Qui sont les premiers à avoir porté plainte?
Ah, le premier, c'est vraiment le collectif C19, c'est-à-dire, effectivement, représenté par les trois médecins, donc Ludovic Taureau, Emmanuel Sarrazin et Philippe Nakache, qui étaient tous les trois surexposés et représentatifs, si vous voulez, de ce qu'on avait vécu, de ce qu'on a vécu. C'est intéressant parce que l'un est médecin urgentiste salarié, le deuxième est médecin libéral, en fait, dans un centre de médical d'urgence, et le troisième est médecin généraliste avec, par ailleurs, une fonction de maire de la commune. Et tous les trois ont été submergés, en fait, de patients très très vite, sans aucune protection. Et ça a été une véritable catastrophe pour eux. L'un d'entre eux, d'ailleurs, a été contaminé, par exemple. Mmh.
des plaintes qui se déposent, qui sont qu'on retrouve un petit peu partout en France, des plaignants qui veulent des explications. Est-ce que ces plaintes peuvent aboutir? On sait qu'on en reparlera tout à l'heure vis-à-vis des assurances. Il n'y a pas de plaintes de groupe, d'action de groupe comme aux États-Unis. Est-ce que ces explications, vous pensez que vous les aurez et que ces plaintes au pénal peuvent aboutir?
Alors, si vous voulez, en réalité, je pense qu'il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que pour le savoir, il faut déjà qu'il y ait une enquête. Oui. Et déjà, c'est une très bonne chose que le parquet, il faut quand même se souvenir d'une chose, hein, ça paraît rien comme ça, mais c'est le parquet qui se saisit, enfin qui ouvre une enquête préliminaire aussi vite, c'est assez inédit dans l'histoire quand même aussi, hein. C'est rare. Du coup, il a fait quelque chose d'intéressant, le parquet, c'est qu'il a forcé la main un petit peu à la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République ne pourra pas faire autrement aujourd'hui qu'ouvrir une instruction et auditionner les ministres et investiguer. Et donc, est-ce que ces plaintes ont des chances d'aboutir? Ben, en fait, tout va dépendre de ce qu'on trouve dans l'enquête. Mais ce que je peux vous dire avec une certitude quasi absolue, c'est que si les propos de Mme Buzyn d'un côté et de M. Véran de l'autre, encore réitérés cette semaine, selon lesquels les généralistes n'ont pas vu de patients et que donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de masque, sont avérés, s'ils les confirment, alors il n'y a pas de raison que ces plaintes n'aboutissent pas.
Oui. Combien de temps pour un procès comme celui-là? Pour des procès,
longtemps.
Plutôt
longtemps.
Longtemps, oui.
Longtemps, si vous voulez, il va falloir compter. Imaginons que on ait besoin de que les gens soient renvoyés devant la juridiction de jugement, on va se retrouver à 4-5 ans.
Alors, vous avez cité des médecins, il y a également des familles qui ont décidé de porter plainte. Oui.
Nous avons effectivement, alors nous avons des familles, et nous avons effectivement généralement des familles qui ont perdu des proches. Moi, je représente une veuve d'un médecin généraliste, par exemple. Je représente également un chirurgien dentiste qui a perdu ses parents, en tout cas son père. Je représente un psychologue qui est par ailleurs élu et qui a perdu également son père dans des conditions assez, assez dramatiques. Il y a vraiment une volonté, si vous voulez, de chercher la vérité avec quelque chose qui est assez constant dans toutes ces plaintes, c'est que tout le monde est dans une colère absolument indescriptible parce que le gouvernement est accusé ouvertement de leur avoir menti, en fait, d'avoir menti aux populations. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que les propos de Mme Buzyn, sur lesquels on discute beaucoup, ils ont fait vraiment l'effet d'une bombe. Ces propos dans Le Monde, hein, vous vous souvenez, dans lequel elle dit qu'elle a vu la vague arriver devant nous, qu'elle a averti tout le monde, etc. Ça a fait l'effet d'une véritable bombe. Au sens où, effectivement, les gens se sont sentis complètement trahis, trompés, en fait. Et il y a vraiment une colère froide à l'égard des gouvernants, qui même, pour être très honnête, est assez inquiétante, en fait. Il faut être honnête. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine qu'on a une colère qui monte à ce point, avec une accusation ouverte de mensonge. Et quand on voit ce qui se passe actuellement avec la commission d'enquête parlementaire, qui est finalement, pardon, mais c'est vraiment un truc d'apparatchik, la commission d'enquête parlementaire. Je veux dire, où on entend l'opposition venir vous dire qu'elle ne cherche pas des responsables, comment voulez-vous qu'on ait pas une multiplication? Ils se protègent entre eux. Comment voulez-vous qu'on ait pas une multiplication des plaintes? Tant et si bien, d'ailleurs, que ce que je peux vous dire à titre, j'ai envie de dire, exclusif quasiment, parce que je l'ai pas encore dit, mais je vais aujourd'hui écrire, moi, à la commission d'enquête pour demander à ce que, immédiatement, les victimes que moi je représente soient entendues par la commission d'enquête. C'est pas possible autrement. On peut pas. On interroge le professeur Raoul. C'est pas possible autrement. Personne ne fait de recherche de la vérité sans savoir ce qui s'est passé sur le terrain. Vous voyez.
Il y a des médecins qui vont être. Il y a des médecins qui vont être.
Il faut être raisonnable. Je veux dire, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Raoult, indépendamment effectivement de la polémique qui entoure ses prescriptions. Mais le professeur Raoult n'est pas représentatif de ce qui se passe sur le terrain.
Mais je veux dire, à un moment donné, il va être entendu, si.
Bah, il y a quand même, je voudrais savoir qui va être entendu. Est-ce que le médecin généraliste de votre ville, de votre village, va être entendu? Est-ce que ce médecin généraliste auquel on dit aujourd'hui, auquel Olivier Véran dit qu'il a fermé son cabinet et que, en tout état de cause, il n'avait pas de patients, est-ce qu'il va être entendu? Est-ce que les familles, effectivement, des victimes vont être entendues? Est-ce que la veuve du médecin généraliste qui s'est battue pour trouver des masques au mois de février, fin février, va être entendue? Bien sûr que non. Je veux dire, et c'est ça le cœur du problème, et c'est pour ça que je vais demander à ce qu'ils soient entendus. Et si la commission d'enquête devait refuser de les entendre, eh ben ce que je ferais, c'est relativement simple. Je déposerai une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction d'ici quelques semaines, comme j'ai été le premier à déposer plainte, les délais me sont ouverts. Et si je saisis un juge d'instruction, ça a un effet quasiment immédiat, c'est de dessaisir la commission d'enquête parlementaire. On ne peut pas avoir une information judiciaire et une commission d'enquête parlementaire. Donc soit la commission d'enquête dit qu'elle recherche la vérité et elle la recherche par le bas et avec effectivement les outils qui lui sont à sa disposition, qui sont les auditions, mais en faisant vérité, soit elle a envie de se complaire dans un truc d'apparatchik, et dans ces cas-là, je saisirai le juge d'instruction et ça la dessaisira. Mais les familles, les victimes ne seront pas, si vous voulez, pour faire simple, ça suffit. Elles ne paieront pas deux fois. Elles ont payé une première fois un tribut assez lourd. Elles ne viendront pas, effectivement, en plus, payer le tribut du mensonge supplémentaire où on va venir tirer des bilans de la crise dans leur dos. C'est pas possible, ça.
Et est-ce que, alors, certains trouvent que c'est indécent de porter plainte, que le gouvernement a fait ce qu'il a pu. Je vous dis les arguments qui sont avancés. Est-ce qu'il y a eu, vous affirmez qu'il y a eu des dysfonctionnements, du mensonge et intention, que ça a été fait intentionnellement?
Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement? Le président de la République lui-même le reconnaît, donc ce point, il n'y a pas de débat. Quant à savoir, effectivement, si ce dysfonctionnement relève d'une infraction pénale, c'est ce que l'enquête va devoir montrer. Mais à ceux qui, effectivement, me disent que, finalement, c'est un scandale de déposer plainte, je vais répondre deux choses. D'abord, vous avez vu qu'en Italie, le procureur de la République a entendu pendant 7 heures de Bergame, a entendu pendant 7 heures le Premier ministre. Il s'est auto-saisi, le procureur de la République. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle un parquet indépendant qui ne dépend pas du pouvoir. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que tous ceux qui disent ça font de la politique. Je veux dire, moi, je suis dans un état de droit, et dans un état de droit, celui qui effectivement est responsable de la justice, ben, c'est le juge, c'est l'autorité de poursuite. Et je ne comprends pas que les mêmes qui vantent les mérites de la démocratie, qui chantent les louanges effectivement de la démocratie, viennent la piétiner dès qu'il s'agit d'utiliser la violence légitime qu'est saisir le juge. En quoi saisir le juge est-il une offense? J'entends ça et là, mes confrères sur les plateaux télé qui viennent nous accuser de vouloir allumer le bûcher de je ne sais quoi. Mais est-ce qu'on se rend compte des propos qu'on tient? Il y a des familles qui ont perdu des proches et par principe et par nature, on leur dit c'est de la faute de personne. Mais qui nous sommes pour le dire? Qui sommes-nous pour le dire? Regardez la preuve. Le parquet a ouvert des enquêtes préliminaires. Donc c'est qu'il estime lui-même qu'il y a matière à enquêter, il n'a pas classé les plaintes sans suite. Or, Dieu sait ce qu'on a entendu quand on a déposé plainte, c'est que totalement vain, etc. La vérité, c'est qu'il faut précisément faire la vérité, et que cette vérité, elle passe par une enquête, par des perquisitions, elle passe par des moyens de coercition, et à la fin, nous verrons si oui ou non, il y a effectivement une responsabilité pénale qui doit être recherchée ou non. Mais à ce stade, venir accuser les familles de vouloir finalement piétiner la démocratie ou que sais-je, c'est franchement, c'est, elle recherche la vérité. Et je ne comprends pas que dans une démocratie, on puisse encore aujourd'hui tenir ce genre de propos avec quasiment 40 000 morts plus tard quand même.
Donc la suite, c'est aujourd'hui donc écrire à la commission d'enquête que vous venez de nous révéler.
Je veux dire, la commission d'enquête parlementaire, elle doit entendre les familles. Si la commission d'enquête parlementaire n'entend pas les familles, eh bien concrètement, ça veut dire que cette commission d'enquête n'est pas à la recherche de la vérité, ne se soucie pas de la vérité. On est exactement dans les causes qui ont conduit à la crise donc qu'on vit actuellement. On se protège entre soi, on fait des grandes théories administratives, on vient effectivement faire des concepts, réunir des commissions, mais qui, à la fin de la fin, sont complètement désincarnées et ne sont absolument pas représentatives de ce qu'elles sont censées être, c'est-à-dire le peuple et la population.
Ouais. Bah écoutez, on va suivre ça avec évidemment beaucoup d'attention. On le rappelle, hein, c'est totalement inédit, toutes ces plaintes. Et puis, on va évidemment voir ce qui est en train de se passer. Il y a effectivement aujourd'hui le directeur général de la santé qui doit être auditionné. On va voir comment les choses se passent. Merci, Maître Divisio, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on continue à parler des conséquences du judiciaire après le sanitaire, le judiciaire et en particulier tous ces commerçants à qui les assurances n'ont pas voulu rembourser le préjudice. On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Beaucoup de commerçants, évidemment, sont en très grande difficulté suite aux fermetures pendant le Covid. Des entrepreneurs se fédèrent contre les assureurs. Maître Elie Elias Bourhan, bonjour. Vous êtes avocat au cabinet Beaubourg Avocat. Bonjour, vous m'entendez ? Il ne m'entend pas, donc on a un petit souci de connexion. Donc vous êtes fédéré sur une plateforme V pour Verdict et vous avez lancé une action collective pour les commerçants,
oui,
les entrepreneurs, les assureurs qui ont refusé d'indemniser les pertes d'exploitation. Alors quelle est la situation aujourd'hui pour tous ces commerçants ?
Oui, bonjour. Alors, la situation, c'est que ces commerçants se trouvent vraiment face à un léviathan, hein, que sont les assureurs, qui refusent simplement de les indemniser, alors même qu'ils ont souscrit à des contrats multirisques professionnels et ils veulent simplement faire valoir les clauses qui figurent dans leurs contrats et les assureurs, en l'espèce, refusent simplement de les indemniser.
Oui, mais comment on peut refuser à partir du moment où il y a un contrat ?
Exactement. Et c'est pour cela que nous, on a mené cette action collective. C'est que, au départ, les assureurs sont allés dans les médias pour dire « Non, le risque de coronavirus n'est pas assurable, c'est exclu des contrats. » Or, c'est faux. Il y a dans les contrats des assureurs qui ont prévu explicitement l'exclusion du risque de coronavirus, donc de pandémie, de manière générale, et effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas d'indemnisation. Mais c'est pas le cas de tous les assureurs. La plupart n'ont pas prévu le risque de pandémie, et dans ce cas-là, il faut simplement regarder ce qui figure dans le contrat et appliquer les dispositions contractuelles, tout simplement.
Alors, quel type de commerçants, d'entrepreneurs ont porté plainte ou se sont constitués auprès de vous ?
Oui, alors c'est pas une plainte puisque c'est une action
oui,
civile.
Une action, oui.
Exactement, mais donc il s'agit de TPE, de commerçants, c'est vraiment tout le monde, hein. C'est votre restaurateur chez qui vous allez déjeuner tous les midis, c'est votre fleuriste, c'est votre caviste, c'est vraiment tout le monde. On a aussi des plus gros groupes, on a également des aéroports qui nous ont rejoints, on a des patrons de discothèques, c'est vraiment ça touche vraiment tout le monde.
Alors l'action de groupe est interdite en France pour les cabinets d'avocats. Il n'y a que les associations de consommateurs qui peuvent opérer, enfin faire une action de groupe. Comment est-ce que vous allez fédérer justement c'est une action collective, mais pas une action de groupe.
Exactement. C'est vrai qu'on a cette difficulté.
Ouais. Oui. Ah non, allez-y.
C'est vrai qu'on a cette difficulté procédurale, c'est que les avocats ont été exclus de la loi Hamon qui ne permettent qu'aux syndicats et aux associations de porter des actions de groupe. Or, on a réussi finalement à contourner cette difficulté en faisant des actions collectives. Donc, en réalité, on représente tout le monde, mais de manière individuelle. La difficulté qu'il y a par rapport à l'action de groupe, c'est que l'action de groupe va avoir pour conséquence qu'une seule juridiction va être compétente pour rendre une décision qui va s'appliquer à toutes les parties. Or là, effectivement, dans le cadre de ce dossier, on va aller représenter chaque entreprise, chaque commerçant devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent. Donc, c'est vrai que ça va nous faire un tour de France des juridictions, mais bon, en l'état, c'est la difficulté et on n'a pas d'autre choix.
Oui. Est-ce que les assurances sont inattaquables ? Est-ce que c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre ? Elles ont assez peu été mises en cause. On a vu ce restaurateur qui a gagné en première instance, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de commerçants, de restaurateurs dire que leurs assurances ne veulent pas les rembourser, et ça fait pas beaucoup de bruit dans la presse. Donc il y a une sorte de chape de plomb sur les assureurs.
Absolument. C'est vrai qu'il y a, cette difficulté, ils ont vraiment pris le paysage médiatique dès le départ pour dire qu'ils n'assuraient pas. Certains ont proposé des remboursements de quelques mois de primes, d'autres des indemnisations spontanées mais plus ou moins ridicules, alors qu'il faut uniquement appliquer ce qu'il y a dans le contrat pour obtenir l'indemnisation qui est due.
Il y a des clauses particulières. J'ai pas tout compris parce que je suis pas spécialiste, mais un ami restaurateur m'expliquait que comme il a deux établissements, ils ont invoqué le fait qu'il y ait que deux établissements au même dans la même ville, ça annulait la clause en question. Enfin, ils sont en train de chercher dans tous les recoins des contrats des arguments pour invalider ces contrats.
Absolument. Mais heureusement qu'on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui est constante et qui va dans notre sens. C'est-à-dire que la Cour de cassation est relativement protectrice des intérêts des assurés. Et elle a considéré que des clauses qui étaient rédigées d'une telle manière à ce qu'elles vidaient de sa substance l'idée même d'une indemnisation étaient considérées comme nulles. Et en l'espèce, on peut considérer par exemple une clause qui vous dit que si dans le même département, quelqu'un qui est un autre restaurateur, un autre commerçant qui a exactement le même sinistre que vous, un incendie ou un dégât des eaux, eh bien n'entraînera pas une indemnisation. Ces clauses sont considérées comme des clauses nulles par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ouais. Votre conseil aux commerçants qui nous écoutent, aux chefs d'entreprise qui sont concernés, c'est de porter plainte, c'est de rejoindre une action comme la vôtre, c'est de se battre contre ces assurances.
Oui, absolument, et c'est l'essence même de l'idée d'une action collective. C'est-à-dire que la difficulté de l'action collective, c'est le coût d'accès à l'avocat. Donc là, en l'espèce, il y a des confrères et nous également qui menons des actions collectives et qui permettent de réduire le coût de l'accès à l'avocat. Nous, en l'espèce, c'est vrai que c'est que 250 euros TTC, ça inclut les 130 euros de frais d'huissier pour la signification de l'assignation. Il faut se battre, bien évidemment, exercer ses droits. Et nous, ce qu'on propose effectivement dans le cadre de cette action collective, c'est un service d'analyse gratuit de tous les contrats, de tous les commerçants, TPE, PME. À l'issue de cette analyse, on va pouvoir vous dire si oui ou non, il y a de fortes chances d'obtenir une indemnisation. Si c'est le cas, soit ils rejoignent l'action collective, soit ils vont voir d'autres avocats. Et s'ils refusent d'agir, bon bah c'est leur décision. Et en tout cas, moi, ce que je recommande, effectivement, c'est d'agir, de ne pas se laisser dicter la loi par des assureurs, parce que le droit protège les commerçants, les TPE, les PME. Donc, agissez, exercez vos droits.
Alors, est-ce que tous les assureurs sont logés à la même enseigne? Il y en a qui ont été plus coopératifs que d'autres. Je vois que par exemple la MAF a annoncé que l'indemnisation de ses clients restaurateurs ayant souscrit une garantie couvrant les pertes d'exploitation atteindrait un montant de 190 millions d'euros. Donc il y en a quand même qui ont indemnisé leurs adhérents.
Absolument. Certains ont procédé à des indemnisations spontanées alors même que leurs contrats sont inattaquables. Donc c'est très bien pour eux, mais c'est vrai que c'est une logique commerciale, c'est-à-dire qu'ils vont aller, grâce à cette indemnisation spontanée, ils vont attirer des assurés vers eux. C'est vrai que ça fend aussi le bloc des assureurs qui refusaient jusqu'à maintenant toute idée d'indemnisation. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur même du groupe des assureurs, il y a cette dislocation du front qui fait bloc. Ouais. Et c'est très bien, mais il s'agit là effectivement plus d'une guerre commerciale que juridique.
Bon, donc vous en êtes à combien de procédures pour l'instant?
On en est à plus de 530 entreprises qui nous ont rejoints, dont plusieurs grands groupes, ETI, beaucoup de PME, beaucoup de TPE, en France métropolitaine, dans les Outre-mer. Et ce chiffre, effectivement, il augmente tous les jours.
Et l'union fait la force. Encore une fois, l'action de groupe est interdite, mais cette action collective vous donne plus de poids. Ce que vous proposez est plutôt, je trouve, malin, c'est-à-dire 250 euros pour participer à cette action collective. Donc, c'est pas ruineux pour le commerçant qui veut se joindre à vous. Donc, la plateforme s'appelle V pour Verdict. Merci Elias Bourane, avocat au cabinet Beaubourg Avocat. Merci à vous. On se retrouve dans un instant, évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé à Dijon, on vous en parlait ici même hier à 11h, où est l'État? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, on parlera également de la manifestation des soignants et puis travailler davantage, oui, mais comment? À tout de suite.